à tous, bienvenue dans Europe Midi Weekend, il est midi et demi.
Europe Midi Weekend.
Lénaïque Monnier.
Avec justement un week-end noir sur les rails, 4 trains sur 10 seulement sont en circulation. Les contrôleurs sont en grève et menacent déjà de reconduire le mouvement pour les fêtes de fin d'année. Avec Nina Droff, on va faire le point sur les difficultés que vous risquez de rencontrer. C'est une première étape pour tourner la page de la dernière élection présidentielle. Les Républicains désignent leur président ce week-end. Ciotti, Retailleau, Pradier, les résultats du scrutin sont attendus demain soir. Comment éviter le blackout? En cas de surcharge du réseau électrique, les autorités misent sur la responsabilité des Français et sur l'approvisionnement des voisins belges. On y reviendra. Et puis si vous prenez l'avion ce matin, ne cherchez plus l'aéroport Charles de Gaulle. Il change de nom pour la bonne cause. Clarisse Ménager, qui dirige la fondation Anne de Gaulle, sera mon invitée. Nous serons également en reportage à l'aéroport. Et puis bien évidemment, comme tous les week-ends et particulièrement pendant la Coupe du Monde, nous parlerons de football à la veille de ce match France-Pologne, 8e de finale du Mondial. Voilà les titres. Avant d'entrer dans le vif du sujet, une tendance météo, Valérie Darmon.
Le temps reste gris et froid avec de la bise et de la neige abondante en montagne de Clermont-Ferrand au pied des Cévennes et beaucoup de pluie et de vent de la Côte d'Azur au Roussillon.
Et météo complète juste avant 13h. À tout à l'heure.
Europe 1.
Et décembre commence donc bien mal dans les gares pour les usagers. Seulement 4 TGV et Intercités circulent ce week-end. Il faut dire que les contrôleurs sont en grève. Bonjour Nina Droff.
Bonjour.
Alors c'est surtout l'axe Atlantique. C'est là que les difficultés se concentrent.
Oui, c'est cet axe qui est le plus impacté. Seul un TGV sur 4 circule aujourd'hui. Sur les axes sud-est et est, un train sur 3 est assuré. Et enfin, un train sur 2 en direction du nord. Il y a aussi des perturbations sur les trains internationaux. Le trafic est totalement interrompu vers l'Espagne, vers la Suisse et l'Italie. Un train sur 2 est maintenu et seulement 1 sur 3 pour l'Allemagne. Des annulations qui sont souvent un casse-tête pour les usagers en gare, obligés de modifier leur itinéraire à la dernière minute. Écoutez ces voyageurs au micro de Thibaut Hue.
C'est un peu embêtant, je vais rentrer tôt sur Saint-Malo et finalement je me retrouve à rentrer à 19h30 au lieu de 11h. Journée en famille, annulée, reportée.
J'ai dû m'organiser autrement, payer le billet de train plus cher. Je l'ai payé 111€, juste le retour, alors que de base j'avais payé 110€ l'aller-retour.
Pour descendre à Bordeaux, je me retrouve à prendre un train pour Nantes. J'ai trouvé un trajet de voiture pour Nantes-Bordeaux. Il n'y a plus de trains disponibles, ils sont soit tous supprimés, soit tous complets.
La circulation des trains devrait reprendre progressivement à partir de lundi, mais il pourrait y avoir d'autres perturbations à l'avenir, notamment sur les week-ends des fêtes. Un préavis de grève a déjà été déposé pour le week-end du Nouvel An et celui de Noël. Des négociations pour une sortie de crise sont en cours entre la direction et les syndicats. Clément Beaune, ministre délégué au transport, a appelé à la responsabilité collective pour éviter une grève pendant les fêtes.
Merci à Nina Droff pour ces précisions. La politique, on y vient justement avec cette question. Quelle droite pour les Républicains? Les 91 000 adhérents LR votent ce week-end pour choisir leur nouveau président. Ce sera au choix Éric Ciotti, Bruno Retailleau ou bien Aurélien Pradier. Le scrutin s'ouvre à 18h. Alexandre Chauveau, ça se passe par voie électronique.
Oui, selon les mêmes règles qui avaient encadré l'élection de la primaire des Républicains pour la présidentielle l'an dernier, c'est l'entreprise NeoVote qui a été choisie par le parti. Les électeurs doivent donc se connecter sur un site via un identifiant qu'ils ont reçu par la poste, puis avec un code secret envoyé par mail ou par téléphone, code qui, une fois entré, leur permet donc de voter. Ces précautions sont évidemment prises pour éviter les fraudes. LR rappelle d'ailleurs que l'algorithme signale les cartes d'adhérents qui renvoient à la même adresse ou à la même carte bancaire pour que le parti puisse s'assurer de l'identité réelle des votants. Et puis pour les électeurs qui ne maîtrisent pas l'informatique, une centaine de permanences seront ouvertes sur le territoire. Le vote sera donc clos dimanche à 18h et c'est un huissier qui procédera au décellement de l'urne électronique. La présidente du parti, Annie Genevard, annoncera ensuite le résultat par téléphone aux 3 candidats.
Les précisions d'Alexandre Chauveau pour Europe 1. Après le rejet d'une énième motion de censure, le budget de la sécurité sociale pour 2023 est définitivement adopté par le Parlement. Le texte prévoit notamment des économies de 250 millions d'euros concernant les laboratoires d'analyse qui se sont mobilisés contre cette mesure. Le prix du paquet de cigarettes passera également à 11€ en 2024. Et puis parmi les autres dispositions, il y a également la gratuité de la pilule du lendemain. Question gros sous, toujours, on connaît désormais l'ensemble du patrimoine des ministres. La Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique a mis en ligne les déclarations hier des 43 membres du gouvernement. Alors Arthur Delaborde, qui est le plus riche?
Eh bien, c'est Franck Riester, le ministre chargé des relations avec le Parlement, a accumulé un patrimoine brut de plus de 10 millions d'euros. Des actifs tirés principalement d'un groupe fondé par son grand-père dont il a pris la tête et qui détient de nombreuses concessions automobiles. Plusieurs autres membres du gouvernement sont millionnaires. C'est le cas d'Elisabeth Borne qui déclare un montant total d'1 670 000 euros. Le patrimoine de la ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher est encore plus conséquent, 2 680 000 euros. Le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, déclare de son côté 4,5 millions d'euros, un patrimoine principalement immobilier, mais aussi de nombreux biens mobiliers de valeur, comme une Rolex et deux motos Harley-Davidson. À 33 ans, le ministre du Budget, Gabriel Attal, détient lui des actifs financiers évalués à près d'1 600 000 euros. Patrimoine bien plus conséquent que celui de son collègue de Bercy, Bruno Le Maire. Le total des biens et placements du ministre de l'Économie s'élève à 295 000 euros.
Les précisions d'Arthur Delaporte. Aborde pour Europe 1. Emmanuel Macron, lui, a conclu sa visite aux États-Unis par une escale en Louisiane, au lendemain d'une réception fastueuse à la Maison-Blanche qui a scellé l'amitié du président français avec son homologue américain. Le chef de l'État est venu faire la promotion de la francophonie à la Nouvelle-Orléans, ville emblématique des liens franco-américains. Jacques Serey.
Emmanuel Macron déambule tout sourire dans le quartier français.
Merci beaucoup.
Bienvenue, monsieur Macron.
Merci beaucoup.
Après Washington et son froid glacial, la température monte d'un cran à la Nouvelle-Orléans. 25 degrés au thermomètre et une ambiance beaucoup plus animée. Des groupes de jazz à chaque coin de rue. Le président en profite pour se laisser aller à un petit pas de danse entouré par la foule. L'occasion également pour lui de faire le bilan de cette visite d'État.
Pour moi, le bilan est au-delà de ce qu'on pouvait légitimement en attendre. Il est très bon.
Et même s'il n'y a pas eu d'engagement concret des États-Unis pour atténuer les effets de leur plan anti-inflation sur l'industrie européenne, Emmanuel Macron veut y croire.
Le but, c'est que l'Union européenne, en effet, ait un traitement et puisse avoir des exemptions. Si vous voulez, d'ici au début d'année prochaine, il faut qu'on ait pu régler ce sujet. Donc, pour moi, c'est le premier trimestre 2023 qu'il faut qu'on ait finalisé ces sujets.
Le président qui a lancé l'invitation en retour à Joe Biden, le dirigeant américain est le bienvenu quand il veut pour une visite d'État en France.
Et Jacques Serey, envoyé spécial d'Europe 1 aux États-Unis. À la Nouvelle-Orléans, où Emmanuel Macron a par ailleurs rencontré Elon Musk, le chef de l'État, dit avoir eu une discussion claire et sincère avec le nouveau patron de Twitter. Il a insisté pour que le réseau social fasse des efforts en matière de transparence et de renforcement de la modération des contenus. Il est midi 37 sur Europe 1. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Vous restez bien avec nous. Comment éviter le blackout en cas de surcharge du réseau électrique au mois de janvier notamment? Les autorités misent sur la responsabilité des Français, mais également, vous l'entendrez, sur l'approvisionnement des voisins belges. On voit ça dans un instant. À tout de suite sur Europe 1.
Europe midi week-end.
Lénaïque Monnier.
Il est quasiment 1h20 sur Europe 1. Bienvenue à vous. Alors, on vous parlait au début de ce journal de la grève SNCF. Eh bien, sachez que les trains pourraient être bloqués pour autre chose, tout comme les métros et les trams. On reparle ce midi de tous ces secteurs qui pourraient être concernés par de potentielles coupures de courant programmées cet hiver. C'est l'une des options envisagées par le gouvernement en cas de surcharge du réseau électrique. Alors, pour éviter au maximum ces potentiels délestages, eh bien, la France a inauguré hier, une nouvelle liaison avec la Belgique pour doubler la capacité d'échange d'électricité sur les lignes à très haute tension frontalière. Et le président de RTE, Xavier Piechasi, compte également sur le comportement de chacun d'entre nous.
Les coupures ne sont pas une fatalité. Nous allons prévenir les Français 3 jours avant. Les Français, les entreprises et les collectivités locales ont 3 jours pour s'organiser et faire le jour J les bons éco-gestes. Et si tout le monde fait ses bons éco-gestes le jour J, il n'y aura pas de coupure. Nous nous organisons pour les éviter. Les entreprises, les collectivités locales doivent nous aider. Mais nous aussi, nous mettons en service des nouvelles interconnexions le plus vite possible pour importer le plus d'électricité possible. C'est de la capacité d'importation supplémentaire. Hein, et ça fait baisser le risque de jour éco-watt rouge. Je rappelle, un jour éco-watt rouge, c'est on programme des coupures, sauf si les Français se mobilisent, les entreprises, les collectivités locales, pour faire des éco-gestes.
Xavier Piechasi, président de RTE, micro Europe 1 de Maximilien Carlier. Et puis toujours au chapitre énergie, le gouvernement va débourser 6 milliards d'euros de plus pour boucler justement le bouclier tarifaire qui devrait bientôt s'étendre aux structures collectives d'habitat comme les EHPAD par exemple. Cette rallonge doit aussi servir à combler le manque à gagner dans le secteur des énergies renouvelables. J'ajoute par ailleurs que les écoles collèges et lycées ne seront pas épargnés par les délestages dont on vient de parler. Un seul et même établissement scolaire, néanmoins, ne fermera pas plus de 3 fois cet hiver. En tout cas, c'est ce qu'affirme le ministre de l'Éducation nationale, Pap Ndiaye, sur le site internet d'Enedis. Le gestionnaire du réseau annoncera si l'établissement de votre enfant sera fermé ou non le lendemain matin. Et c'est donc dans ce contexte de sobriété énergétique qu'ouvrent ce week-end les stations pyrénéennes. C'est le cas du domaine de Font-Romeu dans les Pyrénées-Orientales qui a pu ouvrir dès hier 50% de son domaine. Une année où il a fallu tout particulièrement s'adapter, justement on y revient, à l'augmentation des prix de l'énergie et trouver des moyens de faire aussi en parallèle des économies. Reportage sur place du correspondant d'Europe 1 en Occitanie, Benjamin Peter.
On a un ciel magnifique, une neige excellente, que ça continue.
Après plusieurs descentes, Roger a le sourire, il a retrouvé ses sensations. Cette ouverture a été un défi pour la station, il a fallu trouver tous les moyens pour économiser l'énergie. Jacques Alvarez, le directeur, a notamment décidé que cette année, il n'y aurait pas de ski de nuit.
Le ski de nuit cette année, ça ne nous semblait pas raisonnable. Sur la neige de culture, quand il fait trop chaud, on ne produit pas, de façon à ce que ça consomme le moins d'électricité possible.
Autre mesure, on ralentit les télésièges dès qu'on peut. Sophie est en charge de la remontée des RL, elle adapte l'allure en fonction de l'affluence.
On voit la vitesse du câble, donc là on est à 3 mètres secondes. Normalement on est censé exploiter à 4 mètres secondes et après en fonction du monde, par exemple au mois de mars, là on pourra rouler à 1 mètre seconde, c'est pas gênant.
Une mesure qui permet d'économiser entre 15 et 20% d'énergie et qui est bien acceptée par les skieurs.
Ça change rien à la pratique quoi, donc ouais. Ça dérange pas.
Là quand il y a personne ça va, c'est pas frustrant.
Mais on le ressent dans la montée.
On le ressent, ouais. Ouais, carrément.
Le forfait a également été augmenté d'un euro, malgré tout les clients semblent pressés de venir puisque la station compte 2 fois plus de forfaits réservés par rapport à l'an dernier à la même époque. À Font-Romeu, Benjamin Peter, Europe 1.
Alors économie d'énergie, économie tout court. À un mois de Noël, le compte à rebours des cadeaux est pour certains d'entre vous déjà lancé. Mais certains commerces pourraient bien être victimes de l'inflation. En tout cas, en ce qui concerne leurs dépenses quotidiennes, eh bien, 9 Français sur 10 disent faire attention à cause de la hausse des prix. Beaucoup d'entre eux se disent même à l'euro près en ce qui concerne certains petits plaisirs. Barthélémy Philippe.
Lily est une retraitée de 74 ans. Avec la hausse des prix, elle a décidé d'aller un peu moins au restaurant.
J'y vais une fois tous les 2 mois.
Et avant ?
Avec une copine, une fois tous les 3 semaines. Je préfère y aller moins et aller toujours dans des endroits qui me plaisent.
À 48 ans, Anouche dirige une petite entreprise. Depuis quelques mois, ce père de famille a changé sa manière de faire les courses.
Il y a des dépenses qu'on ne va pas faire. Alors, pas rechigner sur la qualité, ça c'est sûr. En revanche, économiser plus sur le volume d'achat. On achète ce qu'on achetait avant, mais on achète un peu moins.
De son côté, Marc a tiré une croix sur l'achat d'un nouveau manteau à cause de son prix trop élevé.
Dans les 190 euros, j'ai même été l'essayer plusieurs fois. J'avais pas trouvé le modèle que j'avais en tête, donc ça a facilité le fait de ne pas l'acheter. Mais il y avait aussi la raison du budget, quoi.
Et toujours selon l'étude IFOP, 7 Français sur 10 se disent à l'euro près concernant les dépenses vestimentaires. Ils sont 6 sur 10 à dire la même chose pour le coiffeur et le restaurant.
Barthélémy Philippe du service économie d'Europe 1. Il est 1h moins le quart, vous restez bien avec nous puisque si vous prenez l'avion ce matin à Roissy, vous ne cherchez surtout pas l'aéroport Charles de Gaulle. Il change de nom toute la semaine pour la bonne cause. On va vous l'expliquer parce que Clarisse Ménager, présidente de la Fondation Anne de Gaulle, est mon invitée dans un instant. À tout de suite.
Europe Midi Weekend.
Lénaïque Monnier.
Midi 47 sur Europe 1. Bienvenue à tous si vous nous rejoignez. On attaque la troisième partie d'Europe Midi Weekend où quand Charles laisse sa place à Anne. Depuis ce matin, l'aéroport parisien Charles de Gaulle est rebaptisé Anne de Gaulle à l'occasion de la journée internationale des personnes en situation de handicap. C'est une première mondiale et on en parle ce midi sur Europe 1 avec Clarisse Ménager. Bonjour.
Bonjour madame.
Vous dirigez la fondation Anne de Gaulle. D'abord, première chose, comment vous est venue cette idée ?
Alors, nous souhaitions pouvoir marquer les esprits et pouvoir mettre la vision, les valeurs de nos fondateurs, Charles de Gaulle et Yvonne de Gaulle, au service d'un projet de société qui nous rassemble et qui nous dépasse très largement. Et donc, quelle meilleure idée que de s'inscrire dans la filiation avec l'aéroport Charles de Gaulle qui effectivement pendant une semaine va laisser place à sa fille Anne qui était la fille chérie du général de Gaulle.
Alors visuellement, si je me rends ou si nous nous rendons à l'aéroport aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir de différent ?
Alors, quand vous serez en approche de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, et si vous vous dirigez vers les terminaux 2A, 2B, vous verrez sur la façade que l'aéroport aura été complètement renommé. Donc, vous découvrirez l'aéroport Anne de Gaulle. Et puis, si vous poursuivez votre chemin sur les terminaux 2E et 2F, vous verrez au sein de l'aéroport que toute la signalétique a été modifiée. Et les passagers pourront connaître cette histoire intime du général de Gaulle qui rejoint la grande histoire et en savoir un peu plus sur notre fondation.
Mais alors ça veut dire que si on atterrit à l'aéroport Anne de Gaulle, les stewards, les pilotes vont nous l'annoncer tel quel ?
Alors si vous prenez un avion Air France et que vous atterrissez à Paris Charles de Gaulle, oui, vous serez accueilli à l'aéroport Paris Anne de Gaulle et vous pourrez rentrer de plein pied dans cette histoire qui nous est si chère.
Voyager lorsqu'on est atteint d'un handicap, c'est une difficulté. Qu'est-ce qu'il faudrait améliorer d'après vous de manière urgente ? La priorité.
Alors, il y a des besoins d'amélioration qui sont urgents, en effet. Les personnes que nous accompagnons nous le disent, voyager, c'est encore aujourd'hui un parcours d'obstacles et certains renoncent même à voyager. Alors, pour mieux voyager, il y a des adaptations qui peuvent être faites dans l'environnement et qui ne sont pas complexes. Par exemple, c'est prévoir d'adapter toute la signalétique en communication, ce que nous appelons la communication alternative augmentée avec des pictogrammes, permettre que les agents d'accueil puissent maîtriser le français signé simplifié. C'est aussi permettre d'aménager dans les salles d'attente, dans les zones d'embarquement, des salles de retrait et d'apaisement, c'est-à-dire des espaces sensoriels qui permettent de diminuer la surcharge sensorielle que des personnes peuvent ressentir, parce que dans un aéroport, il y a du bruit, il y a du mouvement, il y a de la lumière. Et ça, c'est quelque chose qui peut non seulement être inconfortable, mais devenir très insupportable pour la personne. Donc là, nous avons les moyens d'agir.
Merci beaucoup Clarisse Ménager. Je rappelle que vous dirigez la Fondation Anne de Gaulle. Alors nous sommes allés sur place jeter un œil. C'est Louise Douillet qui est allée ce matin à l'aéroport Anne Charles de Gaulle pour voir si les voyageurs appréciaient l'initiative.
Sur le fronton de l'aéroport, en lettres lumineuses, le prénom d'Anne remplace celui de son père, Charles. Nadia est accompagnée de son fils, Hamza, autiste profond, et apprécie l'initiative.
Franchement, c'est une très bonne idée, parce qu'il faut valoriser les personnes qui sont comme lui, handicapées, parce que lui, il ne peut pas s'exprimer, il ne peut pas dire ce qui est bon, ce qui n'est pas bon.
À l'origine de l'opération, la fondation Anne de Gaulle, qui se bat au quotidien pour inclure dans la société des personnes en situation de handicap psychique comme Annika.
C'est difficile parce que c'est grand l'aéroport. Là, je suis perdue. Là. On voit pas les horaires. C'est pas facile de reconnaître.
À ses côtés, son éducatrice spécialisée, Marie-Laure, qui espère que cette journée débouchera sur de nouveaux dispositifs.
Ça peut être généralisé, tout ce qui est CA, donc communication augmentée, c'est-à-dire avec des supports qui sont des pictogrammes, donc des images qui permettent de s'exprimer si l'on ne peut pas parler. Mais ça peut être aussi le langage des signes, le macaton.
Des idées que l'aéroport de Paris étudie.
Le reportage de Louise Douillet à l'aéroport Anne de Gaulle, donc il portera ce nom pendant toute la semaine. Et puis on n'oublie pas que c'est la 36e édition du Téléthon ce week-end. Un seul numéro, hein, vous le savez, le 3637 ou bien sur internet téléthon.fr pour faire un don et soutenir la recherche pour lutter contre les maladies rares. L'année dernière, près de 86 millions d'euros avaient été récoltés, mais cette fois, ce n'est plus le Covid mais bien l'inflation qui pourrait décourager certains donateurs. Alors Laurence Thiénot, Herman, la patronne de l'AFM Téléthon, le rappelle, il n'y a pas de petits dons.
Cette année, avec cette crise dont on sait que ça va amputer les porte-monnaies d'un certain nombre de nos donateurs, ce qu'il faut retenir, c'est surtout qu'en général, ce sont vraiment des petits donateurs. Le moindre euro compte parce que ça va nous permettre de financer toutes les actions de l'année qui vient, c'est-à-dire en 2023. Les dons du Téléthon, tous additionnés, quel que soit le montant du don, ça nous permet de faire avancer une recherche très, très innovante, dont aujourd'hui on voit les résultats parce que nous avons des victoires extraordinaires, des enfants qui ont des vies sauvées alors qu'hier ils étaient condamnés, aujourd'hui des enfants qui ont des vies sauvées grâce à ces thérapies très innovantes qui sont nées dans les laboratoires du Téléthon.
Et pour le moment, le compteur du Téléthon est à plus de 16 millions d'euros. Je rappelle que vous pouvez donner en appelant le 3637 et bien sûr sur le site internet téléthon.fr. Et puis j'attire votre attention sur le fait que ce soir sur Europe 1, une libre antenne spéciale de Yann Moix est consacrée aux violences faites aux femmes. Le Standard ouvre à 18h et Europe 1 recueille votre parole, vous le savez, au numéro 3921.
La Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022,
c'est dans Europe Midi.
12h quasiment 55 sur Europe 1 et on va parler évidemment de football avec ce huitième de finale qu'il se profile pour les Bleus demain face à la Pologne. Hier, Antoine Griezmann est venu s'exprimer en conférence de presse. Il est revenu sur son record de 70 matchs d'affilée qu'il doit à un seul homme, son sélectionneur Didier Deschamps.
Je crois que Vieira c'était 44. Quand on était à la 40e, on faisait un peu des appels du pied au coach pour qu'il continue à me mettre. Mais non, après voilà, c'est aussi la relation que j'ai avec l'entraîneur. Je lui dois énormément, c'est lui qui m'a appelé et depuis on s'est pas quitté, c'est une très belle relation et voilà, je lui dois tout en équipe de France. Je donne tout pour le maillot, pour la France, mais aussi pour lui. Et chaque match, chaque action, c'est comme un merci que je lui envoie et essayer de tout faire pour qu'il soit fier de son numéro 7.
Antoine Griezmann au micro européen de Cyril Delamorinerie. Alors, il n'est pas le seul à battre des records. Hugo Lloris, qui dispute sa 4e Coupe du Monde, devrait égaler demain le nombre de sélections en bleu de Lilian Thuram et donc arriver à 142, ce qui impressionne beaucoup notre consultante Wendy Renard.
C'est incroyable, il faut le féliciter de par sa longévité, ses performances, ses prestations tout au long de ses années au sein de l'équipe de France, mais aussi dans les clubs où il est passé. C'est un gardien qui a toujours été régulier. C'est quelque chose d'égaler Lilian, mais sûrement, s'il y a qualification, il le battra. Ah, pour moi, c'est un chat sur sa ligne. Je me rappelle quand il partait de Lyon pour aller en Angleterre, beaucoup de gens disaient qu'il allait se faire bouger dans les airs de par son gabarit, mais il a démontré tout au long de ses années qu'il est performant dans ce domaine-là et surtout dans ses prestations. C'est vrai qu'il fait très peu d'erreurs. Il dégage aussi une force. Nous, en tant que défenseurs, on aime ça. Donc, il n'a pas fait cette carrière-là pour rien. Il le mérite amplement de par tout ce qu'il a pu faire dans ces années.
La consultante d'Europe 1 pendant cette Coupe du Monde, Wendy Renard. France-Pologne, c'est à 16h demain, mais prise d'antenne évidemment dès 15h sur Europe 1. Les huitièmes de finale débutent aujourd'hui au Qatar avec deux premiers matchs à élimination directe. Donc Pays-Bas, États-Unis à 16h, il y aura le point dans les flashs évidemment. Et puis en direct intégral sur Europe 1 ce soir dès 20h, Argentine, Australie. Alors ça, c'est le bruit d'un SMS, vous le reconnaissez peut-être. Alors non, je ne reçois pas de texto en studio, mais sachez simplement que le SMS fête ses 30 ans aujourd'hui et que le tout premier texto avait été transmis par l'opérateur Vodafone. C'était simplement écrit « Joyeux Noël ». Il nous reste à voir le temps, Valérie Darmon. Dans le sud-est, c'est toujours très perturbé, hein ?
Effectivement, sur les Cévennes, tout le sud du Massif central, les Alpes du Sud, la limite puis neige remonte aux alentours de 1100 mètres. À partir de maintenant, les stations des Alpes du Sud qui font un gros plein de neige, c'est une bonne nouvelle, mais attention aux difficultés de circulation. En basse vallée du Rhône et sur la Côte d'Azur, pluie et vent s'intensifient également et la limite puis neige est beaucoup plus basse sur les Cévennes ou le sud du Massif central aux alentours de 800 mètres. Sur la moitié ouest, jusque sur le bassin parisien, le temps est très nuageux et froid, avec un vent de nord-est soutenu jusqu'à 70 km/h, notamment sur les côtes de la Manche, et quelques rares éclaircies qui peuvent essayer de percer dans l'après-midi sur ces régions. Les maximales sont 3 degrés sous les normales, avec à votre mercure 2 à 5 degrés en Normandie, Hauts-de-France, Sud-Auvergne et Grand Est cet après-midi, 7 à 10 sur la pointe bretonne, en Aquitaine et sur le bassin méditerranéen, et jusqu'à 14 tout de même sur la côte d'Azur, et en Corse.
Merci beaucoup Valérie Darmon. Il est quasiment 13h. On se retrouve d'ailleurs à 13h pour un dernier point sur l'information. Et puis évidemment, vous le savez, juste après, Isabelle Morizet, votre rendez-vous du week-end qui reçoit Yannick Noah. À tout de suite.